Place Info.
Bonsoir, fallait-il reporter France-Turquie alors que se poursuit l'offensive turque contre les Kurdes? Nous allons faire un détour par le Stade de France dans un instant. Dans les informés ce soir, le premier acte politique de Christian Jacob à la tête de LR contre le port du voile lors des sorties scolaires et l'élection de Kais Saied, un conservateur à la tête de la Tunisie. C'est dans les informés avec Maya Daboulos, directrice générale adjointe de Havas Paris, avec Jannick Halimi, rédactrice en chef adjointe au service politique du Parisien, aujourd'hui en France, avec Monder Abdenader, cofondateur des Napoléons, réseau social dédié aux acteurs de l'innovation, enseignant à Sciences Po, et avec Gilles Bornstein, éditorialiste politique à France Info. Bienvenue à tous les quatre. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h à la radio, à la TV, sur le canal 27 de la TNT. Fallait-il annuler donc France-Turquie, match qualificatif pour l'Euro 2020 qui tombe en pleine crise internationale à la suite de l'offensive turque contre les Kurdes au nord-est de la Syrie? Nous allons au Stade de France. Bonsoir à vous, Cédric Guillou.
Bonsoir Jean-François.
Du service des sports de Radio France. Cédric, le dispositif policier est important. Nous sommes à trois quarts d'heure du coup d'envoi. Qu'en est-il des supporters turcs?
Bah écoutez, tout se passe bien pour l'instant, en tout cas à l'intérieur du stade Jean-François. Beaucoup de supporters turcs sont déjà là, on en entend 30 000 ce soir, c'est-à-dire près de la moitié du Stade de France. Stade de France qui sera donc évidemment partagé. Pour l'instant, tout se passe bien. Ils font beaucoup de bruit, ils sont très bruyants, mais ce sont des supporters de football qui sont d'abord là pour voir un match très important pour leur pays, pour la France également. Alors, les supporters turcs ont conspué les joueurs de l'équipe de France lorsqu'ils sont entrés sur le terrain, mais je dirais que c'est plutôt normal parce que quand on est supporter, eh bien, on siffle ou l'on conspue l'équipe adverse. Donc, on va dire que pour l'instant, on est dans la normalité sur ce match, même si il y a effectivement ce contexte géopolitique tendu qui rend peut-être cette rencontre un peu plus électrique que d'habitude.
Dernier mot, Cédric. Hein, il faut rappeler que c'était en juin dernier, le 8 juin, la Marseillaise avait été sifflée. C'était en match aller à Konya. Et Emmanuel Macron, d'ailleurs, avait trouvé ça inacceptable à l'époque. Hein.
Oui, effectivement, et on a la crainte de nouveau, Jean-François, ce soir, que cette Marseillaise soit sifflée. La ministre des Sports est présente ce soir, Roxana Maracineanu. Il n'y a pas Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, qui a décliné l'invitation. On attend ce moment avec impatience, 20h40, 20h41, savoir si la Marseillaise va être sifflée et quelle sera la réaction, justement, de la ministre des Sports, Roxana Maracineanu.
Merci à vous, Cédric Guillou. On vous retrouve tout à l'heure sur France Info. Gilles Bornstein, il fallait annuler ce match ou pas?
Non, je pense qu'il était compliqué d'annuler ce match pour tout un tas de raisons. Cela dit, c'est vrai que ça pose des problèmes. Alors, c'est quand même un élément de calendrier absolument incroyable. Le niveau de pas de chance que ce match ait lieu juste en ce moment est quand même un truc absolument incroyable qu'on n'aurait pas pu croire. Il y avait deux éléments qui ont motivé les demandes d'annulation. Il y a d'abord le fait que la Marseillaise puisse être sifflée et ces saluts militaires faits par les joueurs turcs. La Marseillaise, franchement, c'est ce que notre reporter a dit est pas totalement faux. Que des supporters étrangers sifflent l'hymne national du pays contre lequel ils sont, c'est pas ce que je préfère dans le foot. C'est un peu bourrin. Mais enfin, c'est des choses qui arrivent.
Ça existe.
Ouais. Ce sont des Turcs qui vont siffler la Marseillaise. Il ne faut pas confondre avec ce qui s'était passé lors du match France-Algérie, ni lors du match de Coupe de France avec Bastia ou Ajaccio, je ne sais plus, mais vous saurez ça mieux que moi, où des jeunes Français avaient sifflé l'hymne national. Ça, je peux comprendre que c'est inadmissible. Là, c'est des Turcs qui vont siffler la Marseillaise. C'est pas très beau, mais so what. En revanche, le fait que des soldats fassent un salut militaire, fassent un salut militaire après le match contre l'Arbanie.
C'était à Istanbul vendredi dernier.
Voilà, ça c'est un problème. Alors Jean-Luc Mélenchon, avec le sens de la nuance qu'il caractérise, a dit ce sont des soldats de l'armée d'Erdogan. C'est un petit peu exagéré, mais c'est vrai que des footballeurs n'ont pas à faire un salut militaire pour saluer, glorifier l'action de leur armée dans un pays étranger.
Jannick Halimi, vous avez choqué cette photo où on voit ces j'ai envie de dire soldats, ces joueurs vêtus de rouge faisant ce salut militaire après le seul but marqué de la rencontre.
Hein. Sur cette image-là, alors pardonnez-moi, moi j'ignorais totalement parce que ça a l'air d'être une tradition. Hein, c'est pas uniquement aujourd'hui dans le contexte actuel ce salut.
Ça prend une dimension particulière quand même.
Attendez, je termine. C'est pas la seule fois et c'est pas dans le contexte actuel qui justifie ce salut. J'ignorais tout ça. Je me suis juste reportée, pardon, hein, parce que je l'ignore, et peut-être que je vais dire une grosse bêtise, mais je répète ce que j'ai lu de la part d'un spécialiste de je ne sais plus quel think tank français qui est très connu, enfin bon, et qui dit que ce salut, ce geste, est un salut culturel, et pas politique au sens, et encore moins militaire. Je vous faites là une drôle de... Mais c'est ce que j'ai lu de la
culturel,
part d'un
spécialiste.
Culturel, que, ouais, les, que même ouais. les petits-enfants dans les classes ouais. Font, parce que c'est un signe, certes, de patriotisme, mais pas de nationalisme, et encore moins, dit ce spécialiste, entendons-nous. Encore moins de caractère belliqueux, agressif, voire...
Mayana Boulos, sur ce que vient de dire Jenny Calimi à l'instant.
Moi, je pense que de tout temps, le foot a été un miroir de la politique. Ouvrier, féministe, jeune de banlieue, militant anticolonialiste, etc. Tout le monde s'est servi du foot comme d'un support de revendication. Et ce qui est intéressant, c'est donc, est-ce que ça aurait été exactement la même chose si ça avait été un match de basket, par exemple? Non, évidemment non. Le foot a une dimension particulière aujourd'hui. Il y a une porosité entre le football et la politique. Les audiences suivent. En plus, je rappelle quand même qu'à la finale de la Coupe du Monde, il y a eu 1 milliard de personnes devant la télévision. Juste, no offense pour les personnes qui adorent le foot, mais je me suis renseignée. La semaine vendredi dernier, je crois, au match France-Islande, il y avait 5,8 millions de téléspectateurs en moyenne. C'est énorme. Et en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, le foot n'est plus seulement un sport, c'est devenu un véritable média qui relaie des positions politiques.
Mander Abdelnader, sur ce match qui devait ou pas se jouer, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Quel est votre regard là-dessus?
Alors, moi, je déplore le fait que le football soit devenu un levier politique. Je pense que, comme l'olympisme, il faut qu'on le garde de toutes ces sollicitations qui sont malvenues. Et donc, il faut bannir tout signe ou tout message politique lié au sport, parce que sinon, ça va compliquer nos vies. Nous qui avons des difficultés à créer du lien politique, du lien culturel, si en plus par le sport, qui est un des derniers bastions qui nous permet de créer ce lien, on s'est rattrapé par le politique, c'est un peu dommage, et ça risque d'être très dommageable.
Allez, on va entendre des avis très divergents sur la question dans un instant. Pour l'heure, 20h10 sur France Info. Rappel de l'info avec vous, Solène Cresson.
Et pour l'instant, bonne ambiance avant le coup d'envoi d'un match sous tension dans une grosse demi-heure au Stade de France. Les Bleus reçoivent la Turquie pour les qualifications à l'Euro 2020. Plusieurs centaines de policiers mobilisés. L'offensive turque en Syrie, largement critiquée par la France et l'Union européenne, fait craindre des débordements. Et dans le nord-est de la Syrie, les troupes de Damas viennent d'arriver dans une ville clé des Kurdes, Minbej. Kurdes et Syriens ont trouvé un accord hier pour contrer les Turcs. Depuis mercredi, Ankara avance en territoire kurde à coups de bombardements et de combat violent. L'ONU parle déjà de plus de 160 000 déplacés. Au total, plus de 9 000 tonnes de produits ont brûlé le 26 septembre dernier dans l'incendie de l'usine Lubrizol et celui de sa voisine. La préfecture vient d'annoncer les chiffres de Normandie Logistique. Plus de 4 000 tonnes brûlées, des produits Total, des pneus ou même de la cire d'abeille. La région Normandie débloque 5 millions d'euros pour les agriculteurs victimes des conséquences du sinistre. 11 jours après l'attaque à la préfecture de police de Paris, 5 personnes de l'entourage de l'assaillant Michael Harpon sont toujours entendues par la police. Parmi elles, un des imams de la ville de Gonesse, dans le Val d'Oise, celle que fréquentait Michael Harpon. Et puis il y a eu peu de désistements, affirme la Fondation du patrimoine sur France Info. 6 mois après l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, elle a récolté plus de 220 millions d'euros, issus de 230 000 donateurs de 152 pays différents.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Alors il y a eu ce tweet hein, assez significatif de Jean-Christophe Lagarde, le président de l'UDI, qui est à la tête du groupe de réflexion sur les Kurdes à l'Assemblée nationale, qui a écrit sur Twitter donc avec ce salut militaire, celui que nous évoquions à l'instant, « L'équipe de football turque a hélas brisé la frontière qui doit séparer le sport de la politique. On ne peut décemment accueillir demain, donc aujourd'hui au Stade de France, ceux qui saluent le massacre de nos alliés kurdes. Je maintiens ma question, fallait-il donc que se tienne ce match ?» Écoutez ce qu'en a dit un député de La République En Marche, Laurent Saint-Martin, élu du Val-de-Marne et futur rapporteur général du budget, invité du 1850 France Info.
Ce n'est pas à la France de le faire, c'est à l'UEFA et sous certaines conditions. Et puis au-delà de ces simples conditions, je crois qu'un terrain de football est une enceinte de rencontres sportives et elle doit le rester. Et il va y avoir 22 joueurs qui vont jouer au football. Par contre, il y a une condition pour que ce match puisse se faire, c'est que les joueurs, et les joueurs turcs en particulier, n'importent pas de signes politiques sur le terrain, comme cela a pu être le cas lors de rencontres précédentes.
Nous y sommes, Janik Halimi. Est-ce qu'on peut vraiment dissocier les choses aujourd'hui?
Non. On ne peut pas les dissocier, je passe sur cet aspect culturel ou militaire ou pas de ce salut, donc sur le fond, même si on peut le souhaiter, hein, dans l'idéal, c'est évident que le sport, quel qu'il soit, est politisé, il n'y a pas besoin de remonter jusqu'au plus symptomatique des Jeux Olympiques de 1936 qui ont été ô combien politisés. On peut parler de l'Afrique du Sud qui avait été exclue de tous les Jeux Olympiques entre 1964 et 1992, le boycott des Jeux Olympiques de Russie en 80 les États-Unis et également plusieurs pays occidentaux.
Mais la politique est partout.
La politique est partout. La politique est donc on aurait pu effectivement pour dénoncer ce qu'on appelle aujourd'hui une invasion d'une partie de la Syrie contre les Kurdes par la Turquie, ça aurait pu être une raison hautement politique, pour reporter. Cela dit, pardonnez-moi, Monsieur Le Drian, Jean-Yves Le Drian, qui est donc le ministre des Affaires étrangères et qui était le ministre de la Défense en 2015 au moment de la grande offensive, qui sait pertinemment ce qui se passe sur le terrain ne viendra pas, symboliquement c'est très fort, mais il dit lui-même que reporter, annuler ce match, alors que des discussions sont en cours, des négociations sont en cours avec la Turquie, enfin entre les différents camps.
Ça aurait pu être préjudiciable.
Donc faisons de la réelle politique, ne nions pas le fait que le sport est politique, mais écoutons aussi peut-être les protagonistes politiques qui disent il y a des négociations, donc ne prenons pas le risque de les briser.
Alors Gilles Bornstein, je vais vous faire écouter ce qu'a dit, c'est très court, hein, Eric Ciotti, député LR des Alpes-Maritimes, il était chez LCI, sur cette tenue du match ce soir.
Ce soir, c'est au ministère de l'Intérieur, c'est à la France, à prendre ses responsabilités.
Au nom de la sécurité.
Des élus l'ont demandé aussi. Il y a des menaces de grande tension. Ce match, je le dis, ne peut pas avoir lieu dans ces conditions ou dans un contexte de menaces, d'inquiétudes, de provocations.
Alors, menaces, sécurité. Imaginez, s'il y a des sifflets tout à l'heure, tiens, sur la Marseillaise, pour prolonger ce que dit Eric Ciotti. Ça devient un incident diplomatique.
D'abord, il me semble que ce que dit Eric Ciotti est faux. Ce n'est pas à la France de décider. Ce sont des compétitions organisées par l'UEFA. Donc, seule l'UEFA peut décider l'annulation du match. Mais c'est vrai que les autorités locales peuvent le demander s'il y a un trouble avéré à l'ordre public. Écoutez, si la Marseillaise est sifflée, encore une fois, c'est compliqué de savoir qui siffle. Que des étrangers sifflent la Marseillaise, c'est antisportif, c'est stupide, c'est tout ce que vous voulez. C'est arrivé à Konya au match aller, il n'y avait pas encore la guerre. Donc ça arrive, voilà, les supporters turcs sont nationalistes, sont très fervents autour de leur équipe nationale. C'est tout ce que je déteste, mais c'est la vie, ça arrive. Ce n'est pas pareil que de siffler son hymne national. Sur la question de l'annulation, c'est vrai que c'est compliqué, parce que je suis alternativement d'accord avec vous deux. Monder a raison de dire qu'il faut que le sport reste un endroit où on peut avoir des relations normales, mais c'est compliqué de glorifier les valeurs du sport, de la camaraderie, de se battre normalement sur un terrain de sport, alors qu'au même moment, on déplore des exactions de l'armée turque.
J'entends bien vos arguments.
C'est vrai que c'est pas facile de savoir s'il faut annuler le match ou pas.
Gilles Bornstein, j'entends bien vos arguments, mais Monder Abdelnader, il y a eu tout ce débat avec les déclarations qu'avait faites sur France Info, hein, Noël Le Graët, à propos justement du comportement des supporters, faut-il arrêter des matchs ou pas. Est-ce qu'il faut savoir, il faut donc ne pas se crisper par rapport à ces situations-là, il faut fermer les yeux et passer à autre chose, c'est ça l'idée?
Je ne suis pas en train de dire qu'il faille ne pas être vigilant et de baisser les bras et de laisser faire des comportements qui sont des comportements pas du tout respectueux des valeurs que nous on a envie de défendre. Ce que je dis juste, c'est que aujourd'hui les politiques, quand ça les arrange, ils disent je fais la différence entre les gouvernements et les peuples, et quand ça ne les arrange pas, ils font l'amalgame. Moi, c'est ce que j'essaie de dire. Je dis il y a des peuples, il y a des gouvernants. Est-ce que on a envie? Il faut quand même rester dans cette forme d'ouverture ou de différenciation. Évidemment qu'on est tous contre les exactions qui se passent aujourd'hui la militante kurde qui vient d'être assassinée, mais sauvagement.
Non,
sauvagement.
Civile.
Oui, tout à fait. Sauvagement, oui. sur le terrain où ont lieu aujourd'hui les combats. Évidemment que c'est terrifiant pour les Kurdes, mais il faut, je suis d'accord sur le fait que s'il y a de la parole, s'il y a des... Parce que la France, le seul pouvoir qu'elle a, c'est de pouvoir mobiliser l'Union européenne, l'ONU, etc., pour faire en sorte que les combats cessent.
L'OTAN aussi.
Bien sûr, tout est bon, et la Turquie en fait partie, tout est bon pour que ces combats cessent, quitte à ce que ce match joue... j'espère dans des conditions qui seront acceptables.
Maïda Boulos, oui.
Je crois que Gilles a raison. C'est-à-dire qu'il y a deux questions. Il y a la question de la sécurité et puis il y a la question symbolique. Les pouvoirs publics peuvent annuler un match pour des raisons de sécurité, mais ça n'est pas à eux que revient la décision d'annuler un match pour des raisons symboliques. D'ailleurs, c'est intéressant de voir qui réagit sur le hashtag, c'est-à-dire annulation match France-Turquie, oui. A été un trending topic, c'est-à-dire un des sujets les plus discutés dans la journée sur Twitter. Plus de 40 000 réactions, ce qui est quand même énorme.
C'est énorme.
C'est énorme, et surtout avant un match. D'habitude, il y a une émergence sur les réseaux sociaux pendant le match, mais là, c'était avant. Et c'est intéressant de voir qui réagit, qui sont les politiques qui ont réagi. Mélenchon, Lagarde, Le Pen, Bardella, c'est-à-dire seules des personnalités qui ne sont pas aux responsabilités et donc à qui il ne revient pas de prendre une décision. Après, la question est-ce que la ministre quittera le stade la Marseillaise est sifflée.
Je ne comprends pas. Alors, soit les ministres n'y vont pas, soit les ministres y vont. Mais que Le Drian n'y aille pas et que Roxana Maricenea y aille, ça me paraît un petit peu bizarre.
Moi je ne trouve pas. Comme ministre des Affaires étrangères, encore une fois, anciennement ministre de la Défense sous François Hollande, qui connaît parfaitement ce qui se passe, n'y aille pas justement au regard de la crise internationale qui se passe, je trouve que c'est un élément très fort. Maintenant, vu nous-mêmes, nos hésitations, nos atermoiements, nos cas de conscience, presque, que la ministre des Sports, alors qu'il y a, vous avez raison en partie, Gilles, pardonnez-moi, la ministre des Sports a longtemps, parce qu'on l'a eu plusieurs fois au téléphone cet après-midi, a longtemps réfléchi, je ne dis pas hésité.
Il y a eu une réunion à Matignon, ça a été vraiment une grande hésitation toute la journée.
Voilà, exactement, et avant de donner sa réponse positive ou négative, qui finalement a été positive, il s'est passé deux longues heures, donc elle a longtemps hésité. Maintenant, ce qu'il peut faire, puisque le match aura lieu, espérons qu'il n'y aura pas d'atteinte à l'ordre public, et là, effectivement, Christophe Castaner devra intervenir. La ministre pourra tout à fait arrêter le match ou prendre le micro et faire ce qui s'est passé.
Quitter le stade.
Quitter le stade. Et deuxièmement, alors là, j'ignore les règles. Alors, pardonnez-moi, est-ce qu'un tel match n'aurait pas pu avoir lieu à huis clos? Je pose la question avec cet effet de propagande ou médiatique. Ça existe des matchs à huis clos.
L'UEFA a plusieurs armes à sa disposition. Je ne sais pas si elle a celle-là. Je ne sais pas.
Allez, vous évoquiez à l'instant François Hollande, Jeannick Halimi. On va l'entendre dans une petite minute. Tout d'abord, 20h20 sur France Info. Ce rappel de l'info avec vous, Solène Cresson.
Des orages brefs, mais violents avec des dégâts dans l'ouest. Un arbre est tombé sur le périphérique de Caen sans faire de victimes. Le centre-ville de Laval a été inondé. La perturbation en ce moment avance vers l'est et Météo France place maintenant 37 départements en vigilance orange aux orages des Hauts-de-France au Var. La collecte de lait reprend immédiatement, annonce du préfet ce soir après les résultats publiés par l'agence sanitaire. Les seuils ne sont pas dépassés. Les restrictions sur le lait, les œufs ou le miel sont donc levées dans les départements concernés par les retombées de suie. Plus de deux semaines après l'incendie de l'usine chimique Lubrizol de Rouen, l'agence de sécurité sanitaire recommande toutefois une surveillance renforcée. Gérard Collomb, investi par La République En Marche pour diriger la métropole de Lyon après les municipales. L'ancien ministre de l'Intérieur est donc préféré à son concurrent David Kimmelfeld. Dans son communiqué, le parti présidentiel regrette qu'il n'y ait pas eu de démarche conjointe entre les deux hommes. Après plus de 6 jours d'offensive, la Turquie accuse les forces kurdes d'avoir délibérément relâché des détenus du groupe État islamique retenus dans les prisons kurdes. Ankara les accuse de vouloir semer le chaos. Et dans ce contexte géopolitique, on attend 78 000 spectateurs au Stade de France, dont près de 4 000 Turcs. Pour le match de qualification de l'Euro 2020, la France reçoit la Turquie dans une vingtaine de minutes. Le ministère des Sports assure qu'il ne faut pas oublier que cela reste une rencontre sportive. La ministre Roxana Maracineanu nous sera bien présente, contrairement au ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquilini.
Alors, François Hollande, qui recevait Khaled Issa dans ses bureaux parisiens, représentant de l'administration semi-autonome des Kurdes syriens en France, François Hollande a réclamé des Occidentaux qu'ils fassent une pression maximale.
Ce que nous avons à faire, plutôt que de les laisser se jeter dans les bras du régime que nous avons nous-mêmes dénoncé et qui était massacreur de son propre peuple, plutôt que de les laisser aller vers la Russie, notre premier devoir, c'est de faire une pression maximale pour que l'aviation turque cesse ses agissements au nord de la Syrie. La deuxième pression que nous devons faire, c'est dans le cadre de l'OTAN. Comment comprendre que la Turquie puisse être encore membre de l'OTAN alors même qu'elle utilise ses armes contre notre propre allié, les Kurdes.
Maya Daboulos, qui s'exprime? C'est un ancien président, c'est de la diplomatie parallèle. C'est une voix forte, François Hollande connaît le sujet éminemment.
C'est un ancien président et un grand et important commentateur aussi aujourd'hui de la vie politique française. C'est-à-dire qu'il s'exprime là-dessus, mais il s'est exprimé sur beaucoup d'autres sujets aussi. Moi, là-dessus, je pense que sur l'intervention du président de la République, enfin en tout cas sa prise de parole, je pense qu'il a gagné ses galons sur la scène internationale au moment du G7 à Biarritz. Il a gagné ses galons.
Emmanuel Macron.
Et Emmanuel Macron, bien sûr. Comme pour mettre la France en fait au centre et comme médiatrice un peu sur la scène internationale. Le piège et le risque qu'il y avait, c'était précisément d'être dans un entre-deux, d'être dans un en même temps et de ne pas porter une voix politique très forte. Or, je constate que pour le coup, il s'est exprimé assez rapidement, de manière très claire et très forte sur la question kurde. La question est-ce que cette parole a un effet? Ça, c'est un autre sujet. En revanche, sa prise de position a été extrêmement immédiate et forte.
Sur ce que dit François Hollande, la pression maximale que les Occidentaux supposément devraient faire peser sur la Turquie, il y a le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg. A-t-il été trop indulgent avec la Turquie? Il s'est rendu à Ankara vendredi. Il y a eu des propos qui ont troublé la communauté internationale. On a eu la sensation qu'il, au fond, validait quelque peu l'opération turque. Il a dû s'en expliquer aujourd'hui à Londres lors d'une session plénière de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. Voici ce qu'a dit Jens Stoltenberg.
J'ai exprimé ma profonde préoccupation, mais la seule façon de comprendre ce qui se passe là-bas, c'est aussi de comprendre le rôle important que la Turquie a joué. La Turquie est importante pour l'OTAN. Cela s'est révélé important à bien des égards, notamment dans la lutte contre Daesh. En tant qu'alliés de l'OTAN, nous avons tous utilisé l'infrastructure en Turquie, les bases en Turquie, dans le cadre de nos opérations visant à vaincre Daesh. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis préoccupé par ce qui se passe maintenant, parce que nous risquons de saper l'unité dont nous avons besoin dans la lutte contre Daesh.
Mander Abdennader, est-ce que le message est en train de changer aujourd'hui? Nous sommes quelques jours après l'offensive turque. Là, il s'agit de l'OTAN. La Turquie est membre de l'OTAN, on l'a dit et redit mille fois. Est-ce qu'il y a une forme d'ambiguïté aujourd'hui dans le discours des Occidentaux en question?
Moi, je trouve qu'il y a de l'ambiguïté, effectivement, mais c'est lié à un peu à l'histoire aussi. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu une ambiguïté avec la présence de la Turquie dans l'OTAN, avec le fait qu'elle autorise ou qu'elle n'autorise pas, on l'évoquait en micro, des opérations à partir de son sol. Alors, moi, je ne suis pas un spécialiste, mais ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, si dialogue il y a, j'espère qu'il y a un dialogue diplomatique en cours maintenant, et c'est urgent, c'est peut-être l'occasion ou jamais de régler toutes ces ambiguïtés qui existent entre l'OTAN, l'Union européenne et la Turquie, parce que ça va être clé pour l'avenir. En tout cas, ce que je sais, c'est que le fait que les Américains se soient retirés crée un appel d'air colossal pour des mercenaires islamistes qui reprennent les armes, et c'est extrêmement dangereux, à la fois pour la France, mais aussi pour les autres pays menacés par ce terrorisme islamique.
Gilles Bernstein, un commentaire avant la pause de désinformer. Est-ce que l'on peut encore vivre ensemble avec les Turcs au sein de l'Alliance Atlantique?
C'est assez compliqué parce que l'OTAN, c'est un slogan comme ça, mais qu'est-ce que ça veut dire appartenir à l'OTAN? Ça veut dire qu'on se doit assistance mutuelle. Ça veut dire que si la Turquie est attaquée, théoriquement, au terme du traité de l'Atlantique Nord, nous devons participer à leur défense. C'est quand même surréaliste parce qu'aujourd'hui, donc, nous sommes liés à un traité qui nous oblige à participer à la défense d'un pays dont on condamne totalement la politique. Donc oui, c'est bizarre que la Turquie soit dans l'OTAN, d'autant qu'elle est dans l'OTAN formellement, mais pas vraiment réellement, parce que l'OTAN achète des armes lourdes à la Russie, ce qui n'est pas dans les habitudes de l'OTAN. Et c'est vrai que la Turquie achète des armes lourdes à la Russie, et la Turquie interdit aux forces alliées d'utiliser la base d'Incirlik pour ses opérations au Moyen-Orient. Donc la Turquie est membre de l'OTAN sans vraiment jouer le jeu. Oui, il faut se poser la question.
Il y a beaucoup de questions et beaucoup d'ambiguïtés soulevées encore ce soir. Il est presque 20h et 28 minutes sur France Info. Nous allons marquer une pause. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite des informations.
Et si on était sûr d'être joignable tout le temps pour ses clients?
Tu sais, avec mon forfait mobile Orange Pro, j'appelle mes clients en illimité dans toute l'Europe.
Et moi, avec Orange Pro, j'ai jusqu'à 10 heures d'appel vert et depuis l'Algérie, le Maroc et la Tunisie.
Et ben moi, un problème avec mon mobile? J'ai une assistance 24/24, 7 jours sur 7, en France comme à l'étranger.
Bon ben, on part travailler au soleil.
Avec les forfaits Performance Pro, profitez d'un forfait mobile pour les pros avec une assistance adaptée à vos besoins. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Offre soumise à conditions, disponible en France métropolitaine, réservée aux professionnels. Conditions et détails sur orangepro.fr.
Bon. Demain, j'ai un point avec mon expert comptable. Tu sais où sont passées mes dernières factures?
Il les a déjà. Je lui transmets tout en temps réel. Par contre, tu as deux impayés. On ferait mieux de relancer tes clients.
T'oublies jamais rien, toi?
J'ai oublié le code Wi-Fi. Une fois.
On se sent moins seul quand on peut compter sur Cegide. Avec le portail de gestion collaborative Cegide, entreprenez bien, bien entouré. Rendez-vous sur portail.cegide.com.
Ça te stresse pas, tous ces bouchons, toi?
Depuis que j'ai fait ma retraite en ligne, je suis zen.
Mais ça a dû prendre des heures.
Non, sur mademandederetraiteenligne.fr, c'est une seule demande pour toutes tes caisses de retraite 6 mois avant ton départ.
Hein?
Eh oui, ça simplifie la vie.
Rendez-vous sur mademandederetraiteenligne.fr. C'était un message de l'assurance retraite, votre retraite de la sécurité sociale.
France Info Météo, avec Gauthier, fabricant français de meubles de rangement sur mesure, pour toutes les pièces de la maison, à retrouver en magasin et sur gauthier.fr.
La météo, les prévisions avec vous, Élodie Calac pour Météo France.
Attention aux orages, ils peuvent être violents sur les départements en vigilance orange ce soir et cette nuit. Ils se décalent de l'ouest vers la région parisienne, le nord de la Seine, mais aussi vers le sud du Massif central et la Méditerranée, avec des pluies parfois intenses, de la grêle, du vent jusqu'à 110 km à l'heure. Demain, le mauvais temps concernera les régions de l'est, du nord-est jusqu'à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Dans la partie sud, les pluies seront parfois fortes avec des orages. L'après-midi, ça s'arrangera sur la Provence et la Côte d'Azur. Ça s'éclaircira. Sur le reste du pays, quelques averses le matin sous un ciel chargé. L'après-midi, le soleil se montrera davantage, mais on ne sera pas à l'abri d'une averse orageuse. Les températures baisseront nettement pour s'approcher des moyennes de saison, avec 13 à 18 degrés le plus souvent et jusqu'à 24 pour le sud-est.
Sur France Info, toute l'info avec vous. Bonsoir mon cher Emmanuel Langlois.
Bonsoir Jean-François, bonsoir à tous. Du football et les Bleus contre la Turquie ce soir au Stade de France à Saint-Denis, où une marée de supporters turcs est attendue. C'est bien plus qu'un match de football dans le contexte de l'opération militaire lancée par la Turquie en Syrie contre les milices du Kurdistan. Plusieurs élus français ont d'ailleurs demandé l'annulation de la rencontre, auquel assistera Roxana Maracineanu, ministre des Sports et seule représentante du gouvernement. Le match est à partir de 20h45. Le maire de Langouette en Bretagne, fixé d'ici 15 jours, Daniel Cueff, a une nouvelle fois défendu devant le tribunal administratif de Rennes son arrêté interdisant les pesticides à moins de 150 mètres des habitations. Pour la préfecture, ce n'est pas de sa compétence, d'où cette action en justice. « On m'empêche de protéger ma population », a lancé le maire du village d'Ille-et-Vilaine, arrivé sous les vivas d'une centaine de sympathisants. En Espagne, les indépendantistes catalans dans les rues de Barcelone, ils dénoncent la condamnation de 9 des leurs à des peines allant de 9 à 13 ans de prison pour la tentative de sécession de la Catalogne. C'était il y a 2 ans. La justice espagnole lance un nouveau mandat d'arrêt international contre l'ancien président catalan, Carles Puigdemont, qui a fui en Belgique depuis ces événements. Le Nobel d'économie attribué aujourd'hui à un trio de chercheurs spécialisés dans la lutte contre la pauvreté, dont la franco-américaine Esther Duflo. C'est seulement la deuxième femme distinguée dans la discipline et plus jeune lauréate de l'histoire de ce prix. Délaissant leur labo pour le terrain, Esther Duflo, 46 ans, son époux américain d'origine indienne et l'américain Michael Kremer sont allés voir comment en Afrique, en Asie, des programmes ciblés changeaient concrètement la donne pour les populations locales en matière d'éducation, de santé ou d'accès à l'emploi. l'emploi. La Nobel française vient de terminer, s'exprimer devant la presse depuis le Massachusetts Institute of Technology, le MIT, où elle travaille aux États-Unis. Nous l'écouterons d'ici quelques minutes. Deux jours après le passage du puissant typhon Agibi sur le centre et l'est de l'archipel, des dizaines de milliers de sauveteurs sont toujours à la recherche de survivants au Japon. Il y a au moins 56 morts. Les secours progressent sous la menace de nouvelles pluies. Et puis des dizaines de milliers de manifestants pro-démocratie ont à nouveau investi le centre de Hong Kong un lundi pour réclamer le soutien de la communauté internationale, en particulier celui des États-Unis. Rudy Garcia, le nouvel entraîneur de l'Olympique Lyonnais, après avoir entraîné Saint-Étienne, Dijon et Le Mans, le technicien de 55 ans, parti de l'OM conspué par le public, a été intronisé aujourd'hui à la tête du club lyonnais. Antoine Comboiré est lui nommé entraîneur de Toulouse.
20h, 21h, France Info, les informés. Jean-François Aquili.
La deuxième partie des informés de France Info avec Maya Daboulos, directrice générale adjointe de Havas Paris, avec Jannick Halimi, rédactrice en chef adjointe au service politique du Parisien aujourd'hui en France, avec Mander Abdenader, cofondateur des Napoléons et enseignant à Sciences Po, avec Gilles Bernstein, éditorialiste politique à France Info. Alors, il a débuté sur les chapeaux de roue. Christian Jacob, à peine élu président des Républicains, eh bien, a réclamé, c'était sur France Inter ce matin, l'interdiction du port du voile lors des sorties scolaires.
Moi, ça me choque qu'on accepte effectivement qu'une personne voilée puisse accompagner des enfants en déplacement scolaire. Parce que comment expliquer que c'est interdit dans l'enceinte de l'établissement, mais que si on est au contact des enfants en dehors et toujours dans le cadre scolaire, puisque c'est un voyage scolaire, qu'on l'autorise. Si on n'est pas clair sur ce sujet du voile, effectivement, l'ambiguïté fait qu'on se trouve dans ces situations conflictuelles.
Et voilà donc pour cette première intervention du nouveau président de LR, Maya Daboulos, c'est le retour de la droite forte.
Oui, enfin, en tout cas, il a un intérêt à s'exprimer en ce sens. D'abord, juste sur le fond de ses propos,
on va y venir.
Il parle d'ambiguïté. La loi n'est pas ambiguë. Le sens de la loi disait à l'intérieur de l'école et pour les élèves, pas pour les accompagnants. Et d'ailleurs, la Haute Autorité de lutte contre les discriminations, c'était même prononcé à l'époque pour dire que ça pouvait être discriminatoire que de refuser en fait les sorties scolaires pour les mères. Maintenant, en ce qui concerne la prise de position de Christian Jacob, je pense que il a deux intérêts. Le premier, c'est qu'il va dans le sens de ce que pensent les Français. Je peux le regretter à titre personnel, mais c'est ainsi. Un sondage avait été réalisé la semaine dernière pour la FCPE qui portait précisément sur cette question et 66% des Français s'exprimaient en faveur de l'interdiction pour les mères accompagnatrices. Deuxième point, deuxième intérêt pour lui, ça met le bazar dans la majorité.
Oui.
On a vu les quatre ministres se sont exprimés sur la question aujourd'hui.
Ça met le bazar, oui.
Il y a deux prises de position totalement différentes. D'un côté, Blanquer et Bruno Le Maire. De l'autre, Sibeth Ndiaye et Cédric O. Ces deux derniers y étant contre l'interdiction et ne s'étant pas prononcé contre le voile et le port du voile.
Gilles Bernstein.
Je trouve ça assez intéressant, ces contradictions au sein du gouvernement, parce qu'on voit quand même d'où ça vient. Il y a deux ministres venus de la droite et deux ministres venus de la gauche. Sibeth Ndiaye et Cédric O, même, viennent tous les deux d'une sorte de strauss-kahnisme plutôt accommodant sur ce genre de situation, alors que les deux autres viennent de la droite. Et puis c'est aussi deux origines sociales différentes, parce que et Cédric O et Sibeth Ndiaye, dans leurs interventions respectives, l'un sur Twitter, l'autre à la télé, on dit, Sibeth a dit j'ai vécu des visites comme ça en Seine-Saint-Denis quand j'accompagnais mes filles, il y avait des femmes voilées, ça s'est toujours bien passé. Cédrico a dit aussi à Aubervilliers, moi enfant il y avait dans les sorties des femmes voilées qui nous accompagnaient, ça se passait très bien. Je suis pas certain que Jean-Michel Blanquer et Bruno Le Maire aient vécu ce genre de sortie dans leur enfance ou concernant leurs enfants.
Alors, Jannick Halimi, la controverse, elle part, on le sait, depuis vendredi, de cette séance de conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté et cette interpellation de Julien Odoul, jeune élu à Rennes de région devenu extrêmement sévère. Vous comprenez, célèbre, vous comprenez l'émoi suscité par l'incident depuis ?
L'émoi qui a provoqué pratiquement quand même un consensus contre, parce que sur la forme, alpaguer... vitupéré comme il l'a fait contre...
En public,
En public, devant ses enfants. Enfin là, je veux dire, il y a même Nicolas Bay qui fait partie donc du même parti que Julien Odoul. Le Rassemblement National a dit que c'était en substance inadmissible. Donc sur la forme, oui, bien sûr, là, tout le monde est d'accord. Sur le fond, alors, Christian Jacob, on va pas répéter ce qui a été dit. C'est un élément fort. C'est quand même la droite qui a fait passer cette loi. C'était en en 2004. Donc, si je ne m'abuse, c'était la droite qui était au pouvoir. Et c'est vrai que ce que dit Gilles Bornstein est intéressant sur les ministres de droite et les ministres de gauche, parce que c'est vrai que la gauche, notamment socialiste, a longtemps prospéré, enfin en tout cas développé le discours minoritaire, voire communautariste pour certains, sur la base de réflexions, pas seulement du clientélisme, mais de réflexions de Terra Nova, vous vous souvenez, la gauche arc-en-ciel, et que donc ils ont cette gauche-là, qu'on entend très peu aujourd'hui, très très peu, a plutôt tendance à faire mettre en avant la liberté, le respect des différences, alors que la droite, en tout cas une partie de la droite aujourd'hui, et donc de la majorité, défend plutôt, c'est plus, peut-être à front renversé, une sorte d'égalitarisme et de laïcité. Voilà, enfin, tout cas, c'est un vrai sujet.
Mandaire Abdelader, Brigitte Macron était en visite dans un collège parisien aujourd'hui, aux côtés de Jean-Michel Blanquer, et elle a insisté, la première dame, sur la nécessaire neutralité des professeurs. C'est un débat qui, au fond, gêne la classe politique. Il y a déjà une loi qui a été votée. Est-ce qu'au fond, il y aurait une position adoptée nouvelle? Est-ce qu'il y aurait peut-être une matière à légiférer de nouveau sur la question, selon vous?
De mon point de vue, non. Parce que la loi est là et il faut appliquer toute la loi et rien que la loi, comme on dit si bien. Et je trouve qu'elle est tout à fait complète, cette loi. Pour avoir, parce que je sais que sur les réseaux, aujourd'hui, il y a beaucoup de débats sur est-ce que tu as vu le loup ou pas. Moi, j'ai vu, on fréquente tous des femmes voilées, on va dans les banlieues. J'ai, dans mes engagements associatifs, évidemment, la chance ou l'opportunité de créer des liens avec beaucoup de communautés. La loi sur la laïcité de 2004 est extrêmement claire. Ça s'applique dans l'enceinte de l'école pour les élèves. Donc, c'est l'école de la République. À l'extérieur, il n'y a pas d'obligation particulière ou d'instruction particulière.
À l'extérieur, les profs, ils sont soumis aussi. Qu'un prof ne peut pas accompagner une sortie scolaire voilée. Donc, ce n'est pas qu'au sein de l'école.
Et par ailleurs,
le professeur.
Le professeur, pas les le personnel de l'éducation nationale.
Non, et par ailleurs, la question de l'interdiction est à distinguer de la question d'être pour ou contre le voile.
Exactement.
C'est deux choses complètement différentes.
Oui. Exactement. Gilles Bornstein, allez-y.
Il y a deux écoles, en tout cas deux raisons qui font que certains hommes politiques, certains courants d'opinion estiment qu'il ne faut pas porter le voile, y compris dans des sorties scolaires. C'est au nom pardonnez-moi, des signes religieux, je veux dire par là, tout signe religieux, dans un contexte scolaire, même si c'est à l'extérieur des murs de l'école, est à bannir au nom de la laïcité et du respect des religions d'autrui. Justement, on bannit ces... Et il y a un autre élément, il y a un autre élément qui est la liberté de la femme. Certains estiment que les femmes sont libres de porter ce qu'elles veulent, et d'autres estiment qu'au contraire, ce foulard, quand on dit voile, c'est quand même un foulard avant d'être un voile. Voile, ça fait quand même quelque chose qui camoufle le visage. Il ne s'agit pas de ça, reprécisons-le bien, tout de même. Donc, est un signe, je termine, est un signe de soumission de la femme à des préceptes auxquels elle n'adhère peut-être pas volontairement. Donc, juste...
On n'a pas le temps. On va marquer une pause, si vous le permettez. On reprend juste après, Jeannick Halimi. Je signale tout à fait que, à l'instant même, nous en sommes aux hymnes nationaux. L'hymne turc a été entendu dans le Stade de France. Il y a à présent l'hymne français. Et on me dit que, pour l'instant, il n'y a pas de sifflet émis dans l'enceinte du stade. On va y revenir dans un instant. Tout d'abord, 20h40 sur France Info. Le rappel de l'info avec vous, Solène Cressan.
Et vous venez de le dire, les hymnes se terminent au Stade de France et pour l'instant, pas de sifflet. Dans moins de 5 minutes, c'est parti pour le match France-Turquie. Un match de qualification pour l'Euro 2020 de football. Match à risque aussi, avec des milliers de supporters turcs dans les tribunes. Les autorités craignent des débordements face à l'offensive d'Ankara en Syrie, critiquée par la communauté internationale. Côté sport, on retient cette titularisation surprise de l'attaquant Wissam Ben Yedder pour l'équipe de France à la place d'Olivier Giroud. C'est sa 7e sélection. Un conflit qui inquiète l'ONU donc en Syrie. 160 000 personnes obligées de quitter leur maison dans le nord-est du pays. Les Nations Unies sont gravement préoccupées par l'évolution de la situation humanitaire depuis le début de l'offensive turque contre les Kurdes. Les troupes de Damas, elles, sont en train d'arriver à la frontière. Pas de seuil réglementaire dépassé, mais les incertitudes demeurent. L'Agence de sécurité sanitaire publie les résultats des dernières analyses sur le lait plus de deux semaines après l'incendie de l'usine chimique Lubrizol de Rouen. Le ministère de l'Agriculture vient lui d'annoncer la levée immédiate des restrictions sur les produits consignés et la reprise de la collecte chez les producteurs. Deux migrants retrouvés morts sur une plage du Touquet dans le Pas-de-Calais. L'un d'eux a 17 ans, c'est une première dans le département où les migrants sont de plus en plus nombreux à tenter la traversée vers l'Angleterre. C'est seulement la deuxième femme à recevoir le prix Nobel de l'économie, la franco-américaine Esther Duflo, récompensée en Suède aux côtés de ses collègues indiens et américains. Un prix pour leur approche expérimentale de lutte contre la pauvreté. Un magnifique prix Nobel. Salut Emmanuel Macron.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Avant de poursuivre sur les Républicains, cette prise de position sur le voile, petit détour par le Stade de France. Cédric Guillou, on vous retrouve. Nous sommes à quoi 3 minutes, 2 minutes du coup d'envoi. Est-ce qu'il y a eu des sifflets pendant l'hymne national ?
Aucun sifflet, Jean-François. C'est la bonne nouvelle. Hein. C'est la bonne nouvelle de cet avant-match. En tout cas, l'hymne turc a été chanté par tous les supporters turcs qui ont fait le déplacement ce soir au Stade de France. Et la Marseillaise, reprise également par tous les supporters français. C'est un premier bon point parce qu'il y avait beaucoup de craintes, vous le savez, que la Marseillaise soit sifflée comme ça avait été le cas à l'aller à Cognat. Tout s'est bien passé pour l'instant.
Merci à vous, Cédric Guillou, du service des sports de Radio France en direct du Stade de France. Juste un mot, Gilles Bornstein. Finalement, les choses se sont bien déroulées dans l'enceinte du stade.
Tant mieux.
Attendons le match.
Attendons le match.
Concernant les hymnes, Yannick Halimi.
Mais il y en aura à la fin. Enfin, je veux dire, je veux pas pêcher par pessimisme. Ouais.
Ce qui n'épuise pas la question. Hein. Peut-on jouer à la baballe pendant que d'autres jouent avec des balles réelles? Ça n'épuise pas la question, mais tant mieux que ça se passe bien.
Allez, nous évoquions à l'instant Christian Jacob et sa prise de position. La première, véritablement politique à la tête de LR, peut-il relever le parti, les Républicains? Son élection a été accueillie, on va dire, sans grande effusion, mais avec une certaine forme de soulagement par les piliers de ce qu'il subsiste du parti gaulliste, à l'image de Roger Karoutchi, sénateur LR, des Hauts-de-Seine, interrogé par nos confrères de Public Sénat.
Cette élection s'est traduite par une mobilisation supérieure à ce qu'on imaginait, parce que tout le monde disait il n'y a pas d'enjeu, ça n'intéresse personne.
Une élection au premier tour.
Vote au premier tour, 63 000 votants, plus de 62% pour Christian Jacob, après un débat qui a été parfois un peu vif et qui est resté dans les limites du raisonnable, sans division particulière. Donc oui, on peut se considérer que ce vote, cette élection du président des Républicains est plutôt une réussite.
Maya Daboulos, c'est très calme tout ça. Nous sommes loin des années d'effusion, de conquête Sarkozy.
C'est sûr, vous aurez noté que le suspense et l'intérêt n'étaient pas énormes concernant l'élection du président des Républicains. Qu'est-ce que ça traduit? Un manque d'enthousiasme envers les personnalités qui étaient candidates, sans doute, mais aussi un désintérêt pour les partis politiques en général. Le dernier baromètre Cevipof, quand même, place à 12% la confiance envers les partis politiques. Maintenant, en ce qui concerne Christian Jacob, son élection a été marquée par un score et une participation importante, même si le nombre de militants a été divisé par deux depuis l'époque Laurent Wauquiez. Mais c'est pas gagné. Personnalité en retrait, droite divisée, séduction de Macron dans ses rangs. La seule lueur d'espoir est que, contrairement à Olivier Faure au PS, Christian Jacob est plutôt soutenu au sein des Républicains.
Oui, Yannick Halimi, le Parisien, aujourd'hui en France, fait régulièrement, presque quotidiennement, l'écho des aventures des Républicains, de ce parti qui souffre peut-être de beaucoup de départs.
Qui souffre de beaucoup de départs, d'ailleurs, symboliquement. Le jour où Christian Jacob a été élu sur la base d'un rassemblement de tout le parti, une sorte d'UMP moderne ou post-moderne, on apprenait que M. Raffarin, qui n'est quand même pas le dernier des derniers, ancien Premier ministre, bref, annoncer son départ, en tout cas son non-renouvellement de cotisation auprès des Républicains. Donc voilà un élément assez problématique pour Christian Jacob. Mais cela dit, au-delà de tout ce qui a été dit, effectivement, il s'est fait élire au premier tour, ce qui lui évite quand même une crise, un ballotage et des fractures qui seraient encore approfondies. Mais ce qu'on peut tout de même si on le dit, on le répète, le chemin sera long et la voie est étroite entre Macron et le Rassemblement national, entre le terrain de l'économie qui est capté quand même par Macron et le terrain du régalien, de l'immigration et du social. qui est capté par Marine Le Pen. Il reste plus grand-chose à Christian Jacob. Il n'empêche quand même que Christian Jacob, on peut s'engosser, mais tout de même, ça reste quand même un homme politique, je veux dire, totalement respectable.
Solide,
et,
oui.
Solide, oui. Qui a une vraie expérience, qui a été ministre.
Qui n'est pas candidat en 2022.
Mais deux choses. Il a quand même dit deux choses à travers son élection. On peut voir deux choses. D'abord, la ligne et le cordon de sécurité entre les Républicains et le Rassemblement National avec lui est totalement réaffirmé, alors qu'on sait qu'il y a des tentations extrêmement importantes de la part des Républicains. Et deuxièmement, quand on dit Christian Jacob, on dit aussi Nicolas Sarkozy. Parce que Christian Jacob est chiracien, mais il est aussi sarkoziste. Oui. Et donc Nicolas Sarkozy n'est
c'est
pas très loin.
C'est chez le manquant. Mondaire Abdennader, sans doute c'est la position de Christian Jacob, mais peut-être que les électeurs en décident autrement. Cette droite-là est en train de muter, elle est en train de changer, en fait. Elle change de visage. Ses leaders sont dehors, je le répète.
De toute façon, tout le monde est obligé de muter, la droite aussi, mais pas que la droite. Aujourd'hui, on voit, il y a une recomposition, je vous apprends rien, du paysage politique français, comme il y a une recomposition ailleurs dans le monde de beaucoup de paysages politiques sous le joug de cette transformation, le montée du populisme, etc. Mais ce qui est intéressant avec Christian Jacob, c'est que, vous le disiez, il n'est candidat à rien. Il n'est pas candidat, donc je pense que c'est quelque chose qui va être déterminant dans le fait qu'il puisse réconcilier la droite et peut-être mettre sur orbite quelque chose de fondateur. On a besoin d'opposition forte
dans ce pays
et pour que la démocratie puisse perdurer.
Maya Dagoulos ?
Oui, très rapidement, le fait que les Républicains choisissent un président qui n'est pas candidat à la présidentielle et une première, et surtout, c'est peut-être aussi une manière d'enjamber les municipales, de protéger, en tout cas de ne pas exposer à un potentiel candidat aux municipales.
Gilles Bernstein, quand on voit Valérie Pécresse, Xavier Bertrand dehors, qui font cavalier seul.
Un de ses objectifs, c'est effectivement de les faire revenir. Alors, tout le monde dit que c'est le bon choix, Christian Jacob, mais c'est le bon choix parce que c'est le non-choix, justement. On dit, il parle à tout le monde, mais quand on parle à tout le monde, on ne dit rien. Donc, Christian Jacob ne dit rien, et on ne sait pas qui c'est. Bruno Retailleau, je sais qui c'est. Il est réac. Gérard Larcher, je sais qui c'est. Il est territoire et social. Christian Jacob, il est chiracien. Mais on l'a bien vu dans le passé récent. Être chiracien, ça veut pas dire grand chose. Donc voilà, les Républicains ont fait le choix d'un non-choix pour essayer de survivre. On verra.
Le choix d'un non-choix, c'est pas
seconde histoire. Je ne suis pas totalement d'accord, parce que, encore une fois, Christian Jacob, c'est le verrou à toute tentation, au niveau des appareils, je ne dis pas des électorats, avec le Rassemblement National, et ce n'est pas rien, on peut le regretter, mais en tout cas, ce n'est pas rien. C'est sur une ligne qui est suffisamment générale, contrairement aux deux autres candidats, M. Larrivé, M. Aubert et M. Retailleau.
Et
le premier problème, non, le choix d'un rassemblement aussi, le défi est-il aussi impossible ? Le problème, c'est la primaire.
Oui.
La primaire, est-ce que si pour élire le candidat à la présidentielle, s'ils font une primaire fermée, ça va être très compliqué parce qu'il va avoir plusieurs candidats à droite avec Mme Pécresse et M. Bertrand. Et si c'est une primaire ouverte, il va falloir effectivement que tous ces gens-là, tous ces leaders, tous ces fortes têtes, Pécresse, Bertrand, évoqués, croisent le fer. Et ça, c'est peut-être quand même l'ouverture d'un débat intéressant.
Christian Jacob est contre la primaire.
Un mot ajouté.
Alors tout le monde n'est pas d'accord effectivement sur la primaire.
Laissez finir,
il y a deux éléments idéologiques, c'est Christian Jacob. Le premier, vous l'avez dit, c'est qu'avec lui, il n'y a pas de risque de compromission avec le Rassemblement National. Je suis d'accord avec vous, mais si le thème montant, c'est l'écologie, j'ai écouté son débat hier, la préoccupation idéologique venait au 9e rang des priorités des Républicains, après la famille et je ne sais quoi. Donc, pour bâtir un logiciel écologique avec Christian Jacob, je leur dis bon courage.
C'est pas le seul.
La route sera longue et la pente sera rude. 20h50 sur France Info, rappel de l'info. Avec vous, Solène Cresson.
Et c'est le soulagement au Stade de France. Les hymnes n'ont pas été sifflés. La Marseillaise même applaudit juste avant le coup d'envoi de ce match qualificatif France-Turquie pour l'Euro 2020. C'était la crainte des autorités en pleine offensive turque dans le nord de la Syrie, vivement critiquée par l'Union européenne et la France. La ministre des Sports est en tribune officielle et pour l'instant toujours 0-0. Dans le nord-est de la Syrie, les bombardements et les combats violents, eux, continuent. Les troupes de Damas viennent d'arriver dans une ville clé des Kurdes, Minbej. Kurdes et Syrie ont trouvé un accord hier pour contrer l'offensive turque. L'ONU parle déjà de plus de 160 000 déplacés. Les orages ont fait des dégâts en Mayenne, en Loire-Atlantique ou encore en Vendée. Des inondations à Laval, des arbres couchés. Prudence ce soir, des Hauts-de-France au Var, 37 départements sont encore en vigilance orange aux orages. Le ministre de l'Agriculture annonce la levée immédiate des restrictions sur le lait, le miel ou les œufs et la reprise de la collecte chez les producteurs plus de deux semaines après l'incendie de l'usine chimique Lubrizol de Rouen. L'agence sanitaire a publié ses derniers résultats, elle parle encore d'incertitude. Elle propose elle un dispositif de surveillance renforcé. Et puis en Tunisie, c'est officiel, l'universitaire Kais Saied est élu président avec plus de 72% des voix, large victoire donc pour ce novice en politique soutenu par le parti d'aspiration islamiste Ennahda.
France Info, et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Voilà, Solène Cressant évoquait à l'instant le résultat du scrutin en Tunisie. Emmanuel Macron a appelé son nouvel homologue tunisien, Kais Saied, pour le féliciter donc du résultat de ce vote. On va attendre dans un instant la réaction de deux Tunisiens captés ça et là dans la rue. Je me tourne d'abord vers vous, Mondher Abdennader. Est-ce que c'est une bonne ou c'est une mauvaise nouvelle pour la Tunisie? Parce qu'il est assez conservateur, ce nouveau président.
Je suis d'un naturel optimiste, je vais dire qu'il faut que ce soit une bonne absolument. Je ne le sais pas ou je ne veux pas le voir. Effectivement, c'est un. J'aurais bien aimé vous dire que tout à coup, en Tunisie, on a annoncé l'élection d'un Guy Carcassonne. voilà, ça serait formidable, grand constitutionnaliste. Bon, avec peut-être l'enthousiasme et la joie en moins, parce que c'est quelqu'un d'assez austère. Mais il se trouve que ce que je trouve intéressant, c'est que le peuple tunisien a peut-être voté pour la fièvre la plus forte qu'il avait. C'est-à-dire qu'il veut de l'intégrité face à la compromission. Il veut de la vision. C'est quelqu'un qui leur a parlé comme des gens matures et éduqués, ouais. Ce qu'ils sont. Et donc, enfin, ils découvrent quelqu'un qui répond à leur aspiration première.
Intégrité, Mayada Boulos, mais il faut espérer pas l'intégrisme. Ça a été dit, ça et là, concernant ce mystérieux candidat qui était un homme de télévision, de plateau de télé, qui commentait la vie politique tunisienne et qui a séduit notamment les jeunes, massivement les jeunes.
Absolument. C'est d'ailleurs la voix des générations Z qui a décidé en 2019 en Tunisie des résultats de l'élection. C'est les voix des personnes qui avaient entre 10 et 17 ans environ au moment des printemps arabes. C'est à peu près 37-40% de l'électorat du nouveau président. Cet électorat-là était trop jeune, en fait, pour faire la révolution au moment des printemps arabes en 2011. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, quelque part, ils ont fait leur propre révolution, alors dans la rue, mais aussi et surtout dans les urnes.
Allez, on va entendre 2-3 réactions dans la rue, puis on va poursuivre ce tour de table concernant la Tunisie.
C'est un homme honnête, il ne triche pas, il aime la Tunisie.
C'est quelqu'un d'honnête, de droit, de propre, différent des autres hommes politiques.
Une fierté de mon pays, de mon nouveau président, je suis vraiment émue.
On a le droit d'être un peuple libre, on a le droit de sentir la liberté, on a le droit de choisir ce qu'on veut.
Alors, Jannick Halimi, honnête, droit, propre, dit ses supporters dans la rue, en liesse. Ce n'était pas le cas de l'image que dégageait l'homme d'affaires battu, controversé, Nabil Karoui, qui a fait campagne très tardivement, puisqu'il a pu sortir de prison quelques jours avant le scrutin. Vous avez la sensation que la Tunisie va peut-être vers quelque chose de plus stable aujourd'hui, avec cette élection? C'est compliqué à dire,
j'en conviens. On peut. Ce monsieur a été élu démocratiquement, même si le taux de participation était très très bas. Son programme, quand même extrêmement connoté. Il n'est pas franchement favorable aux droits des homosexuels. Il veut réduire une partie des droits des femmes, notamment en matière d'héritage. Donc, encore une fois, même si c'est cette génération de la révolution arabe, comme on dit, qu'il a élu, on est quand même loin des préceptes de cette révolution d'il y a 8 ans. En revanche, la Tunisie, effectivement, est la Tunisie et reste un des pays du Maghreb et du Mashrek parmi les plus démocratiques. Donc il faut espérer cette campagne, toutes choses égales par ailleurs, s'est passée plutôt dans les règles de la démocratie avec une liberté relative, mais réelle tout de même, de la presse, ouais. Des débats relativement divers. Il faut espérer que l'opposition continue, garde des pouvoirs, garde la parole et que le jeu démocratique, finalement, avec une opposition qui fasse entendre ce qu'elle a à dire face à un président qui n'est peut-être pas tout de même l'absolu démocrate auquel on aurait pu rêver même en étant tunisien.
Moi, je trouve ça absolument passionnant parce que manifestement, enfin, je n'ai entendu aucune voix aujourd'hui contester la légitimité de cette élection qui manifestement s'est bien passée. Il a été élu massivement et vous parliez des jeunes, j'ai les chiffres. 90% des 18-25 ans ont voté pour lui, alors que son adversaire est majoritaire, il a fait 50 et quelques chez les plus de 60 ans. Intuitivement que l'homme de, enfin, que celui qui était propriétaire de télé, qui faisait de la télé-réalité, on se serait dit qu'il aurait l'appui des jeunes et qu'à l'inverse, le vieux professeur de droit réac aurait l'appui des plus âgés. C'est exactement l'inverse. C'est que dans une élection assez libre, des jeunes aient voté pour quelqu'un qui est éminemment conservateur, qui est âgé, doit nous faire réfléchir aux aspirations des peuples.
Mander Abdelnader, vous allez avoir le mot de la fin sur la Tunisie. Vous connaissez bien ce pays. Vous êtes optimiste, vous, sur l'avenir proche de la Tunisie?
Alors, les briques élémentaires sont là. C'est-à-dire, je ne vais pas le rappeler, les médias sont libres. La justice est libre, parce qu'elle l'a prouvé, et je vous le dis. Il y a un président qui est soucieux du respect de la Constitution, qui est une bonne Constitution, il faut le rappeler. Les jeunes sont responsables et ont voté massivement pour lui, comme vous le rappeliez. Maintenant, ce qui est déterminant, c'est que on a un président qui doit devenir un homme d'action. Donc, quelqu'un qui donne un programme. Moi, pour l'instant, je ne vois pas de programme.
Ah ben, il y a quand même quelques éléments réduisant les droits des minorités, entre guillemets. C'est le mot de la fin.
Oui, il faut être vigilant. Je suis d'accord avec vous.
Ce sera le mot de la fin. Merci à vous. Jeannie Calimi, la une du Parisien, aujourd'hui en France demain.
L'interview exclusive de Nicolas Hulot.
Interview exclusive de Nicolas Hulot dans le Parisien. Merci donc, Jeannie Calimi, Maya Daboulos, Gilles Bornstein et vous, Mander Abdelnader, d'avoir participé à ces informés de France Info. Pour ma part, je vous dis bonne soirée. Rendez-vous à demain.